Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec David Douillet, Sarah Pitkowski, Philippe Saint-André et Simon Dutin. David, je te préviens, Sarah est en train de dévorer ton livre que tu publies aux éditions Flammarion avec ta compagne Virginie, avec des belles recettes de cuisine.
C'est normal.
Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ? Parce que Sarah cherche à se renouveler, visiblement, comme nous tous, finalement, sur les plats qu'on peut proposer pendant l'hiver. T'as vu quelque chose qui t'intéresse, Sarah ?
Alors oui.
Les cannelloni, je crois.
Ah, les cannelloni, ouais. Alors ouais. Ça, ricotta épinard.
Ah, ils sont trop bons.
Mais, ouais. Mais c'est surtout pour faire les barres de céréales là.
Ah oui.
Ça, c'est super
bien
bon.
Bien sûr.
J'adore ça.
Ah, mais c'est incroyable.
Et
voilà.
Les granola maison, ça, c'est à tomber.
Ouais. Exactement. C'est tout bête à faire.
C'est quoi ta spécialité, David ? C'est ton plat signature, si tu veux en garder un.
Moi, mon plat signature, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu sais, je suis né pas loin de la Manche, du côté de Dieppe, et donc le turbo avec julienne de légumes, j'adore. Parce que faire un bon fumet, c'est quelque chose d'assez simple en fait, et la cuisson du turbo demande, selon l'épaisseur, un petit doigté. C'est un peu comme les pâtes, tu vois, on a des similitudes entre ma femme et moi qui est d'origine italienne pour ça, et voilà, c'est juste de l'attention et de l'amour et de la générosité, et ça marche bien. Voilà.
Normalement, si vous n'avez pas envie de préparer un bon petit turbo, je pensais que tu avais parlé de turbo parce qu'on va parler de Formule 1 en quelques instants. Je trouvais la passe.
C'était l'analogie. Merci.
Mais d'abord, avant de partir à Las Vegas, l'événement sur RMC, c'est qu'on vous offre 120 000 euros. Ça, c'est pas mal aussi. Ça peut mettre un bon turbo dans les économies. La plus grosse somme d'argent jamais offerte sur RMC a gagné 120 000 euros. 100 000 euros pour vous. Et en plus, 20 000 euros pour la personne de votre choix. Sympa, ça. Alors, restez à l'écoute d'RMC, ça peut tomber à tout moment. Rendez-vous d'ici la fin de l'émission pour vous inscrire. Donc, restez attentifs sur RMC. Parlez-en aussi autour de vous. Tout de suite, on parle avec un meilleur lancement, par exemple. Formule 1.
RMC. Le règne des GG.
Voilà, Verstappen maintenant pulvérise encore le record du tour. Preuve qu'il en avait encore sous la pédale, c'est le cas de le dire. Verstappen va terminer avec près de 20 secondes d'avance sur Lando Norris. 1:33.365. C'est le dernier tour de Verstappen qui a remporté ce Grand Prix de Las Vegas.
Jean-Luc Roy en commentaire, le Grand Prix était à 5h du matin, mais il était là dans la matinale d'RMC pour nous faire vivre ce Grand Prix qui va peut-être être décisif. C'est Max Verstappen donc qui s'est imposé sur le strip de Las Vegas devant Lando Norris. Alors on se disait, il reste deux Grands Prix encore, et un sprint au Qatar la semaine prochaine. Ensuite il y aura Abu Dhabi pour le dernier week-end dans deux semaines. Là ça va s'enchaîner très rapidement. On va être tout à fait transparent avec vous, on était parti sur un débat ce matin. Lando Norris ferait-il un beau champion du monde, parce qu'on disait que c'était complètement plié, sauf que l'on a appris il y a quelques minutes que les deux McLaren, celle de Norris et Piastri, étaient sous enquête et avec le risque d'une disqualification qui pourrait complètement relancer le championnat du monde et notamment Max Verstappen pour revenir dans les échappements des McLaren. Jean-Luc Roy nous rejoint, notre voix de la F1. Salut Jean-Luc.
Oui, salut mon Georges et bonjour à tous.
Salut Jean-Luc. Alors là, on a vraiment besoin de toi ce matin.
Ah ouais, là le monde de la Formule 1 tremble, les McLaren surtout tremblent. Je pense. Alors il faut que tu nous expliques exactement ce qui est en train de se passer là avec les McLaren.
Alors, en fait, c'est très simple. Les monoplaces à l'issue d'un Grand Prix ou même d'une séance qualificative sont soumises naturellement à examen très précis de la part des commissaires techniques pour savoir si elles répondent rigoureusement aux impératifs du règlement. Et parmi les impératifs du règlement, et je vais vous citer quelques cas où ça a déjà coûté très cher, il y a la fameuse épaisseur du fond plat. Alors, il y a un fond. À l'époque, on disait que c'était en jabroc. C'est un espèce de c'est pas du bois véritablement. C'est un espèce de mélange spécifique, très résistant évidemment, très dur, qui doit se trouver sous la monoplace, qui est la partie centrale de la monoplace, et également ce qu'on appelle le ski, la partie arrière. Et normalement, ça doit faire 10 mm d'épaisseur. Alors, on tolère plus ou moins 0,1 ou 0,2 mm, c'est un peu, alors là, c'est l'appréciation des commissaires. Oui. selon l'usure qui peut se produire, je dirais, presque naturellement. Seulement là, alors les circonstances, je les rappelle, les qualifications se sont opérées sous la pluie, vous le savez, dans des conditions très délicates. Dans ce cas-là, on cherche à avoir beaucoup d'appui sur les monoplaces, donc on braque les ailerons plus que de coutume pour trouver de l'adhérence, naturellement, et pour faire travailler les pneumatiques pluie. Donc on est plus proche du sol et on n'a pas le droit de toucher au réglage des monoplaces entre les qualifications, les monoplaces sont mises en parc fermé, et le départ du Grand Prix. Or, le Grand Prix s'est déroulé sur le sec, dans de très bonnes conditions, et donc, il est vraisemblable, c'est moi qui interprète.
Ils aient touché à la voiture.
Oui, alors c'est pas une volonté de triche pour écarter tout de suite le sujet, parce que c'est impossible à 1 ou 2 millimètres près, même en Formule 1, on peut pas savoir ce qu'on fait. Donc, simplement, les monoplaces ont dû être réglées très bas, ce qui est normal, pour essayer de produire le maximum d'appui aérodynamique. Il se trouve que ça a profité également aux monoplaces pendant la course, mais il se trouve aussi que à plusieurs endroits sur ce tracé urbain, très spécial, on passe sur les vibreurs. Le fait de passer de manière répétée sur les vibreurs, évidemment, ça use la planche. Voilà. Voilà la circonstance. Et l'article exactement de pour vous faire plaisir, c'est l'article 3.5.9 alinéa E.
Voilà. C'est exactement donc, ce que j'avais besoin comme réponse.
Non mais bien sûr, mais je le savais.
Non mais attendez,
je
le savais. C'est important parce que c'est le combien tu dis
Moi je pense que c'est l'alinéa F, tu vois.
Non, c'est le 3.5.9 alinéa E.
3.5.9 alinéa E, c'est peut-être qui va changer le championnat du monde de Formule 1. Je précise bien pour qu'on comprenne parfaitement. Si les deux McLaren sont disqualifiés à Las Vegas, Verstappen reviendrait à hauteur de Piastri au classement des pilotes et à 24 points de Lando Norris, alors qu'il reste deux Grands Prix et un sprint, 58 points en jeu. David, Verstappen a gagné cette nuit. Là, tout peut changer avec Verstappen en grande forme en plus.
Ah bah si ça arrive, tout peut changer parce que Verstappen, il l'a montré pendant toute sa carrière. Et Jean-Luc va pas, je pense pas qu'il va me contredire. C'est quelqu'un qui est en capacité de tout. Enfin, pour moi, c'est le meilleur de tout faire. D'autant qu'il a aujourd'hui une voiture qui en fin de saison est très aboutie, qui arrive à être aussi quasiment aussi bonne sa voiture que les McLaren. Donc avec le talent de Verstappen et surtout ce qui fait la différence entre tous les pilotes, sa rage de vaincre, il est prêt à tout, absolument tout, et à prendre tous les risques pour y aller, même s'il a déclaré là dans les interviews que alors peut-être qu'il n'était pas au courant de ces problèmes techniques sur les McLaren, pour lui il essayait de faire une bonne saison et qu'il ne s'appliquait qu'à ça. Si ce soir il sait que il est revenu dans la course de manière très très poche, là je peux vous dire que les canines de Verstappen vont pousser d'un centimètre pour le coup, et il va vouloir croquer tout le monde dans les deux derniers Grands Prix, c'est certain, absolument certain.
Et sur l'état d'esprit, je vais aller dans ton sens, David, sur l'état d'esprit de Max Verstappen sur le dernier tour. Jean-Luc, je sais que tu l'as apprécié, il a tenu à faire le meilleur tour en course alors que désormais ça ne rapporte aucun point, donc il a pris des risques pour montrer à tout le monde, les gars,
enfoncé le clou.
Je suis le plus rapide, je ne serai peut-être pas champion du monde, mais je suis le plus rapide.
Mais ce qui est incroyable, c'est Jean-Luc qui il y a 3 semaines nous avait dit quand même qu'il pouvait encore retourner la table.
Exactement.
Jean-Luc qui connaît tous les alinéas,
donc c'est assez exceptionnel. Par contre là, Lando Norris, il va avoir les genoux qui tremblent quand même, hein, parce que s'ils sont éliminés, il va avoir une pression énorme sur ses pilotes.
Sarah. La preuve que tout est relancé, parce que Lando, on l'a vu au premier tour de roue de ce Grand Prix là, il supporte pas la pression.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Et Verstappen passe devant lui parce qu'il rate son premier freinage. Pourquoi? Parce qu'il est en pôle, il a une pression énorme sur les épaules. Verstappen, la pression, c'est son dada. C'est
dur parce qu'il s'en nourrit. Doris, depuis quelques semaines, la pression, ça va quand même, Sarah.
Oui, la pression.
Non, la preuve, il a craqué.
Tu sais quoi? Comme le sujet était de savoir si Lando Norris faisait un beau ou un bon champion du monde, j'ai été creusée un peu. Et en fait, Jean-Luc, j'ai découvert que Lando Norris, c'est pas la super confiance incarnée quand même chez ce jeune homme de 26
Justement,
ans.
Justement, il est humain avec ses fragilités, ses faiblesses.
Comme n'importe quel être humain, je suis d'accord avec toi. Cependant, quand tu vois, j'ai lu ça hier, et quand je me lève ce matin et que je vois effectivement effectivement qu'il rate son premier freinage et que Verstappen lui passe devant.
Il a voulu fermer la porte à Verstappen, il n'a pas vu qu'un virage arrivait très vite.
Mais peut-être qu'il lui manque l'expérience de ce niveau-là, parce qu'il est tout jeune au fait de pouvoir aller chercher ce premier titre de champion du monde. Et je me souviens d'une interview de Verstappen il y a quelques jours qui disait, en fait, ma seule chance, c'est de ne pas rater les erreurs des McLaren.
Et il s'est amusé aussi à mettre des grains de sable
Et comme par hasard, à chaque erreur des McLaren, que ça soit de Norris au Piastri, il arrive. Donc c'est quand même un jeu d'expérience. Cette fin de saison. Et c'est ça qui est intéressant.
Il n'a jamais été dans cette situation à deux Grands Prix de la fin de pouvoir être champion du monde, Simon.
Non, puis il y a.
David, vas-y.
Il y a un autre point qu'on ne voit pas, qui n'est pas sur la course, ni dans les paddocks, ni sur les circuits. C'est que Verstappen et Norris sont amis dans la vie, dans la vraie vie. Et que dans leur relation. Bah, il y en a un qui est un peu le taulier, quoi. Et l'autre. Non, mais c'est vrai. T'as le pilote et le copilote, quoi, dans la configuration. Mais vraiment.
On est quand même en train de comparer Norris à un quadruple champion du monde. C'est quand même un.
Mais en termes de personnalité.
Comme très souvent dans
quand
ce
ils
sport.
Sont dans le privé, l'autre, il est dominant par rapport
d'accord,
à l'autre.
D'accord, mais c'est vrai. Comme très souvent dans ce sport, si t'es pas un bandit avec une grande gueule et que tu lâches pas des punchlines à chaque interview, t'es pas un bon pilote, tu fais pas un beau champion du monde. Alors c'est vrai qu'on aime les Verstappen, on aime les Hamilton, mais Norris, faut pas oublier que il est là depuis plus longtemps que son copain Piastri. Il a quand même accompagné le retour de
McLaren,
écurie mythique vers les sommets. Lorsque moi j'ai lu en effet parce que je suis pas assez spécialiste. Ses ingénieurs louent la qualité de ses retours, notamment pour le développement de la voiture. Il paraît que c'est un des meilleurs, un des pilotes les plus fiables pour la gestion des pneus. Il a quand même montré plusieurs fois cette saison que il savait conduire comme un patron dès Melbourne. Il y a eu les qualifs à Monza où il fait un tour absolument prodigieux. Il est pas loin de doubler Verstappen dans le dernier tour à Mexico. C'est masterclass.
Ce serait un beau champion du monde pour toi.
Ce serait et en plus, il a le côté britannique, beaucoup d'humour. Je vois même que sur certaines parutions anglaises, dans certains torchons anglais, on arrive même à lui reprocher de faire un petit peu trop d'esprit, un petit peu trop d'humour.
Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours un petit mot. Ouais.
Faut savoir ce qu'on veut. Il y a quand même des champions du monde qui ont été. Je sais pas. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Il est sympa. Il a le petit accent anglais. Il court pour McLaren.
Il est constant.
Il a réussi. Il a réussi à remonter le déficit de points qu'il avait sur un Piastri qu'on pensait lancer comme un frelon vers le titre de champion du monde. Moi, je trouve que ça ferait un remarquable champion du monde et un petit peu de variété parce que ça ajouterait un mal alpha là sur la grille pour la saison prochaine.
Si vous nous rejoignez sur RMC, je rappelle juste rapidement, Max Verstappen a gagné le Grand Prix de Las Vegas cette nuit devant Lando Norris. On pensait que Norris avait peut-être fait un écart désormais suffisamment important pour le titre. Finalement, ce qu'on apprend il y a quelques minutes, c'est que les deux McLaren, celle de Norris et Piastri, sont sous enquête et sous la menace d'une disqualification parce qu'il y a des choses peut-être pas trop régulières sur la voiture. Juste, Philippe, avant de t'écouter, Jean-Luc, si il y a deux heures, je t'avais dit Verstappen joue encore le titre, est-ce que tu m'aurais dit oui?
Pardon, est-ce que ça dépend, tu veux dire, du résultat
ou
du
classement? En fait, ceci relance tout, en fait.
Si on était resté dans la situation du résultat.
S'il n'y a pas de disqualification, Norris a un boulevard désormais pour le titre. Hein,
il aurait
58 points. Je dis n'importe quoi. Il aurait 30 points d'avance sur Piastri, 42 sur Verstappen, qu'il aurait 58 encore en jeu jusqu'à la fin de l'année. Norris, là, s'il n'y a pas de disqualification, il y va. Jean-Luc.
Oui, il a une main sur le trophée, mais je te répondrai si ta question était est-ce que Verstappen, si ça reste en l'état, continuera comme un chien? Bien sûr que oui. Jusqu'au dernier tour du dernier Grand Prix, s'il y a une chance mathématique pour qu'il y arrive, il est là.
Toi, Philippe, c'est la constance de Norris qui te plaît au début de la saison.
Moi, je suis d'accord avec Simon. Je trouve que Lando Norris fait une saison exceptionnelle. Alors oui, il a pas le passé, le vécu et le palmarès de Max Verstappen, mais sur cette saison, moi, je le trouve cohérent dans ses courses et que si jamais il est bien second sur ce Grand Prix, eh ben il a pratiquement le titre de champion du monde.
Ah ouais. Là, tout, en fait, tout dépend. Vous imaginez la pression là sur la FIA, franchement, Jean-Luc.
C'est une décision.
Non mais Jean-Luc, qui décide là? C'est quoi? Ah, c'est à la FIA là.
Pas d'accord. Avec...
Alors. Là, qui décide, en l'occurrence, bah, déjà, ce sont les faits. Hein, parce que si c'est avéré, le couperet va tomber. Mmh. Alors, je peux vous citer le dernier qui a perdu un podium. Eh bien, c'était Hamilton, pour cette raison-là, Hamilton avec la Mercedes, au Grand Prix d'Austin, aux États-Unis, en 2023.
Donc ça arrive.
On l'a déclassé parce que sa planche n'était pas assez épaisse. Alors, je vous rappelle aussi, Russell, l'an dernier, vous en souvenez, qui avait remporté le Grand Prix de Belgique 2024 pour 1,5 kg, hein. Tout simplement parce qu'il lui manquait 1,5 kg, ce qui a été le cas de Leclerc à Shanghai cette année. Hamilton lui a été déclassé pour l'épaisseur de la planche. Donc si c'est avéré, le couperet va tomber, hein, ça c'est certain.
Tiens, on a beaucoup de monde qui nous appelle. On a sur WhatsApp notamment Charlie qui me dit Max a fait le meilleur tour en course sur le dernier tour avec 16 secondes d'avance, c'est lui le boss. On a beaucoup de commentaires également. Loco del Sevilla qui nous envoie un message, il me dit la FIA a décidé de maintenir son suspense jusqu'à la dernière course comme en 2021. C'est pas tout à fait la même situation, mais c'est vrai que là tout est dans les mains de la FIA. Et on a Nicolas, tiens, qui est chauffeur routier, qui nous appelle au 32-16 ce matin, fan de Max Verstappen, c'est ça? Salut Nicolas.
Oui, bonjour Georges, bonjour les grandes gueules du sport et bonjour à la légende
Jean-Luc Croix.
Que j'admire beaucoup.
Salut Nicolas.
Bon, Nicolas, tu dois être tremblant là depuis que tu as appris que la FIA peut peut-être disqualifier les McLaren et relancer Verstappen. Ça change tout pour toi là, peut-être pour Verstappen, si jamais il y a disqualif.
Oui, ça change tout. Déjà, il était dominateur sur Las Vegas là, les relais, ça c'était impressionnant. Une course impressionnante, je trouve. Et puis là, j'ai vu ça après, j'ai regardé dans mes notifications, j'ai vu ça, j'étais sous le choc, quoi. J'ai dit, wow, j'ai dit, pas le dimanche, quoi, pas comme ça. Et puis, oui, je suis en stress, parce que moi, je suis un fan de Max Verstappen. Pour moi, c'est le pilote ultime. Il y a eu Ayrton Senna, et pour moi, il y a Max Verstappen. Maintenant, c'est impressionnant ce qu'il fait. Pour moi, je trouve qu'on en parle, heureusement que vous en parlez, vous, sur RMC, mais je trouve qu'on en parle pas assez. C'est un pilote exceptionnel. Pour moi, il nous, même pour vous dire, c'est que même ceux qui n'étaient pas fans de lui deviennent fans.
Eh oui, bien sûr. Non mais tu sais, on en parlait à Nico avec Jean-Luc il y a quelques semaines en disant que cette remontada là peut-être est en train de le rendre sympathique à Verstappen pour ceux qui ne le trouvaient pas comme ça. David, toi t'adores la Formule 1. S'il revient à 24 points là pour le titre, à 24 longueurs de Norris, Verstappen, tu penses qu'il est capable de les faire plier, David, sur les derniers grands prix, il aurait l'avantage?
Mais non seulement il est capable de les faire plier, mais je suis à moins d'accidents de course, etc., etc. Mais maintenant, vu la proximité entre les voitures, je suis assez confiant à ce qu'ils soient en capacité de gagner le championnat.
Ah ouais.
Avec un Lando Norris. Ouais. Avec un Lando Norris qui va s'écrouler, psychologiquement parlant. Parce que moi, je parle de ça, en fait. Entre les deux. Piastri n'est pas un problème pour Norris. Norris a pris le pas sur Piastri. Et Piastri a courbé les chines. En revanche, ça ne sera jamais le cas entre Norris et Verstappen. Et Norris le sait. Il le sait parfaitement. Et entre les deux, la photo, elle est claire. Hein. Celui qui va courber les chines, psychologiquement, ce sera Norris et jamais Verstappen. C'est certain. Donc, si l'épée de Damoclès tombe sur les McLaren aujourd'hui dans le règlement, moi, je dis que je suis assez confiant pour que ce soit Verstappen qui remporte le championnat jusqu'à la dernière seconde de la course, comme l'a décrit Jean-Luc. C'est assez certain.
Jean-Luc, quand est-ce que la décision va être prise de qu'il soit sanctionné ou pas?
Ben, écoute, je pense dans les minutes qui viennent là, parce qu'on on va pas traîner. Hein. Ah ben oui, là ils vont
ça
encore
va
une
pas
fois.
Ça prendre des doivent... jours jusqu'au prochain.
Non,
Grand Prix.
Ah non, absolument pas. D'accord. Alors après, si tu veux, l'écurie peut toujours faire appel de la décision. Mais dans un cas comme celui-là, qui est, j'allais dire, relativement simple, hein, l'écurie doit se rendre à l'évidence. Et dans les cas techniques, je vous en ai cité pas mal. Tenez, tiens, à propos de plan, je vais vous en citer encore un autre. Disqualification de Nico Hülkenberg à Bahreïn cette année. Était 13e pour une question de planche.
Ça arrive.
Donc, non, en général, quand c'est l'épaisseur de la planche, ça tombe comme un couperet.
Vous vous rendez compte, peut-être que le championnat du monde va se jouer à coups de millimètres pour une histoire de planche dans des bureaux à Las Vegas à 1h du matin. Voilà, Camoulox.
On peut parier.
Saison de Formule 1. Merci beaucoup, Jean-Luc. Évidemment, on est en alerte sur RMC.
Oui.
Dès que cette information tombe, elle est déterminante pour le suspense au championnat du monde. Je vous le rappelle, Verstappen a gagné le Grand Prix de Las Vegas cette nuit devant Lando Norris. On pensait que Norris à deux Grands Prix de la fin, peut-être avait pris désormais un avantage suffisant, sauf que l'on a appris il y a quelques minutes que la FIA enquêtait sur la régularité des deux monoplaces McLaren. Elles sont sous enquête, elles sont sous la menace d'une disqualification. Si disqualification il y a, Verstappen reviendrait à 24 points de Norris, alors qu'il y a encore 58 points en jeu d'ici la fin de la saison. Grand Prix du Qatar dans une semaine, Abu Dhabi dans deux semaines. Waouh, le drama est total. Netflix doit se frotter les mains pour leur saison, si jamais ça arrive, évidemment, pour leur petite série. Évidemment, on a en alerte les grandes gueules du sport. Jean-Luc revient on a des informations. Mais tout de suite, bah, tiens, on restera aux États-Unis parce que David Douillet, il y a quelque chose qui ne t'a pas du tout plu ces derniers jours. Elle vient de l'administration Trump et de la prochaine Coupe du Monde. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Il se passe plein de choses ce dimanche dans les grandes gueules du sport avec Philippe Saint-André, avec David Douillet, Sarah Pitkowski et Simon Dutin, évidemment dans l'attente d'une possible disqualification des McLaren au Grand Prix de Las Vegas qui pourrait complètement relancer la course au titre à deux Grands Prix de la fin, relancer donc Max Verstappen. Dans un instant, les GG remontent le temps en 2017 quand la Coupe Davis avait encore un sens et le goût de la victoire, surtout pour l'équipe de France. Et puis en fin d'émission, je vous rappelle, participer au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, tiens Philippe, on peut remporter le maillot Australie 1908, celui de la première tournée en Europe des Wallabies. Il est gris, manche longue.
Magnifique.
Alors, ça tient chaud pendant l'hiver, je pense.
Il doit être bien en coton, bien lourd.
Ouais, franchement, il est assez classe. Hein. Franchement, c'est tu sais, un peu ce style un peu vintage, exactement, ouais. avec le Wallaby. 1908. C'était la deuxième tournée couverte par Christophe Session, on l'a expliqué hier. Pour remporter votre maillot de rugby sport d'époque fabriqué en France, appelez le 32-16, touche 4, pour envoyer sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Tout de suite, les amis, la combat poids lourd. Hein. David Douillet contre Donald Trump. David prend le brassard de capitaine. David Douillet, tu es en colère ce matin contre l'administration Trump, puisqu'on a appris hier, David, tu vas prendre le brassard de capitaine ce matin dans les grandes gueules du sport. On a appris que certains supporters, pour être précis, ceux de Haïti, qui s'est qualifié pour la première fois à la Coupe du Monde, ne seraient pas autorisés à rentrer aux États-Unis pour une question de visa à la Coupe du Monde. Et ça, ça te scandalise ce matin, David. Pourquoi ?
Bah, ça me scandalise. Déjà, on avait eu déjà un premier coup de semonce avec les supporters iraniens qui vont être traités de la même manière que les supporters haïtiens. Il faut savoir que l'administration Trump a décrété, a mis sur une liste 19 pays sur une possibilité restreinte de rentrer aux États-Unis. Bon voilà, il y en a marre. Vous avez Gianni Infantino qui dit la fin du mois d'août, vous inquiétez pas, tout le monde pourra venir voir la Coupe du Monde. Puis en fait, celui qui s'est décrété ou autoproclamé ou qui aimerait être le maître du monde n'en fait qu'à sa tête et prend le sport comme un otage pour assouvir sa politique migratoire, ou en tout cas sa politique tout court. Pour moi, c'est du gros rouge qui tâche. Je l'engage vivement à essayer de comprendre les valeurs du sport, les valeurs inclusives du sport, les valeurs de respect, les valeurs de tolérance, les valeurs de... J'essaie de comprendre l'autre pour accepter et vivre ces différences, parce que le sport, c'est ça. Donc, Monsieur Trump, si vous voulez être le maître du monde... Bah pour être le maître du monde, et puis pourquoi pas peut-être avoir le prix Nobel de la paix, ouvrez-vous au monde et ne le fermez pas, ne mettez pas des barrières entre les gens. Il faut que les gens s'apprennent, se comprennent et se croisent, parce que si c'est pas le cas, bah on restera dans le vieux monde, donc Monsieur Trump, ou alors vous allez continuer à être un ancien dirigeant avec une ancienne politique rétrograde, ou alors vous allez faire preuve de modernisme, d'intelligence et accepter les valeurs du sport tout simplement pour que votre pays et vous-même deveniez quelque chose de grand. On verra.
Là, c'est pas capitaine David Douillet, c'est ministre des Sports.
Ah, mais là,
Douillet.
C'est même Monsieur le Président. Là, on peut
bravo,
en parler clairement.
Bravo, David.
Non, mais bravo, David.
Non, mais c'est vrai, quoi.
Je rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques en plus aussi à Los Angeles dans 2 ans et également que.
Concernés de la même manière.
Donald Trump menace parfois de déplacer des matchs de la Coupe du Monde qui seraient dans des villes que lui estime problématiques parce qu'en fait, des villes tenues surtout par, on va dire, des progressistes. On pense à Seattle notamment. Ou à Chicago. Philippe a dit bravo. Sarah, ça t'agace aussi?
Forcément, on est obligé de s'offusquer de ce genre de décision du président américain. Est-ce qu'on peut être étonné? Non. Il est capable de changer d'avis comme de paire de chemises, Trump. Donc, pour d'autres raisons, il pourrait finalement revenir sur ses décisions. Mais cette Coupe du Monde, elle se joue dans 3 pays, même si Trump est en train de préempter la majorité des matchs. Il reste le Mexique et le Canada. Donc, si Haïti joue une nation sur le sol mexicain ou canadien, possiblement, les supporters pourraient s'y rendre.
Bien sûr.
Donc, au-delà de ça, même si c'est extrêmement choquant, j'espère que la FIFA va reprendre la main et essayer d'organiser les matchs de l'Iran et de Haïti sur des sols qui accepteraient les supporters. Il pourrait y avoir cette petite porte de sortie.
Là, parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, aucun Haïtien ne peut se rendre à la Coupe du Monde aux États-Unis, en tout cas en supporter.
Donc, oui, sauf le staff et les familles. Ouais, mais
déjà, une Coupe du Monde dans 3 pays, c'est n'importe quoi.
Oui, enfin ça, de toute manière, aujourd'hui, le sport coûte tellement cher qu'on a bien compris que même les Jeux Olympiques, aujourd'hui, on va se les partager entre pays. Donc,
Simon.
Je ne suis pas le plus grand supporter de Donald Trump, hein, comme beaucoup. Je le critique souvent dès que j'en ai l'occasion, mais là, je pense qu'on se heurte à un principe de réalité. Si on tombe de l'échelle parce qu'on découvre que les États-Unis ont une politique très restrictive en matière d'accueil de ressortissants étrangers sur leur territoire. Moi, je suis pas d'accord avec David. Là, pour le coup, c'est un raccourci. Donald Trump ne se sert pas du sport. Bon. Voilà, le sport.
Il a la Coupe du Monde dans son bureau. D'accord. Le trophée.
Georges, le sport.
Et il s'en est servi. Moi, je peux dire, j'étais à la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Il s'en est servi largement.
Bien sûr, mais je veux dire, c'est de tout temps. Je veux dire, c'est très très compliqué d'obtenir un visa pour rentrer aux États-Unis. Il ne se sert pas de la Coupe du Monde.
Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas dire que tout le monde va venir, comme a dit Gianni Infantino, Simon.
Au moment de la proclamation présidentielle qui a établi une liste de 12 plus 7 pays dont les ressortissants sont privés de visa, certains de façon intégrale, d'autres sous conditions, on est en juin dernier, Haïti n'est pas encore, sauf erreur de ma part, qualifié pour la Coupe du Monde. Haïti sont en compagnie de l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, qui peut encore peut-être se qualifier pour la Coupe du Monde, le problème se pose. La Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Yémen, les autres pays concernés, mais de façon moins restrictive, c'est Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan, Venezuela. Bon, il y a encore une fois des justifications. L'administration l'a justifié par un taux de ce qu'on appelle l'overstay, beaucoup plus élevé que pour d'autres nations. L'overstay, c'est quand tu dépasses la date limite fixée pour ton autorisation de séjour sur le territoire. Elle est de l'ordre de 30% pour les Haïtiens, ce qui dans le langage
c'est un sujet ça Simon.
On s'en fout, Simon. C'est un principe de réalité dans tout sur tous les territoires.
Arrête.
Mais comme c'est la réalité,
Simon,
pourquoi s'indigner?
Simon, s'il te plaît, je t'en supplie. Réfléchis deux secondes.
Quel est l'endroit aujourd'hui, malgré la beauté, l'universalisme du sport auquel tu, je le sais, es très attaché, dire à n'importe quelle administration, celle des États-Unis comme d'une autre, vos règles habituelles, il faut les changer parce que là vous accueillez événement.
Mais parce que c'est la base de ces compétitions, c'est l'universalisme.
Dernière justification avancée par l'administration, c'est vous savez qu'il y a quand même une instabilité, et le mot est faible actuellement. Sur le territoire haïtien, qui se répercute au sommet des institutions haïtiennes, qui, dans les programmes d'échange et de construction de dossiers de visa,
on n'en sortira pas avec des raisonnements comme ça. Mais
il n'y a pas d'administration centrale actuellement en
mais
Haïti.
Simon, t'es en train
et donc,
de faire
plus
le.
De partage d'informations sur les éventuels ressortissants.
Mais Simon, tu parles comme un vieux là. Arrête un peu. tu parles comme un vieux. Sois moderne, sans déconner. Si, si. Mais non, mais franchement, si, si on se réfère à l'administration, à la politique, à tout ce qu'on sait, tout ce que... Mais regarde, soyons, soyons inventifs, soyons créatifs, et je suis pas naïf en disant ça. Les seuls moyens, un des seuls moyens aujourd'hui pour rassembler les gens dans ce monde, c'est peut-être le sport. Et on va le gâcher, le sabrer sur l'autel du « Ah, on va se protéger, ah, il faut pas, ah, on a des quotas, ah, ceci, ah, cela ». Mais ouvrons les choses, sinon on va jamais y arriver.
Je te dis pas, que je suis ravi que les supporters haïtiens ne puissent pas aller encourager leur équipe. Non, mais... Je te dis que ça correspond à un principe de réalité que moi je ne tombe pas de l'échelle, et qu'en fait, excuse-moi, il faut être à Billy pour imaginer que Donald Trump allait changer sa politique migratoire.
Non, mais alors, à ce moment-là,
il accueille la Coupe du Monde.
Simon, tous les appels au boycott qu'il y a eu de par le passé en 78, il fallait pas aller jouer en Argentine contre la junte militaire, il fallait pas manifester peut-être contre les Chinois avant les Jeux Olympiques pour ce qui se passait au Tibet. Il y a toujours des événements comme ça.
En fait,
les droits de l'homme sont défendus, les droits humains, à chaque fois,
pour
les compétitions.
Il fallait pas aller au Qatar pour la Coupe du Monde. Offusquées, il y en a malheureusement partout dans le monde.
Est-ce qu'on est inquiet pour les Jeux Olympiques?
Il y a de quoi être inquiet pour les Jeux Olympiques, mais
Ah bah oui.
Parce que l'universalisme, c'est le principe des Jeux Olympiques. S'il n'y a pas d'Haïtiens, s'il n'y a pas de Congolais, s'il n'y a pas de supporters.
La naïveté que pointe David, je te la renvoie, David, c'est qu'aujourd'hui, on aimerait que le sport soit au-dessus de la politique, mais ça ne l'a jamais été.
Voilà.
Ça l'a jamais été. La politique est au-dessus du sport. Quand on va faire les jeux au Qatar, la preuve, quand on va faire les jeux à Pékin, quand on va les faire à Sochi, et que les sportifs des Jeux Olympiques essaient d'utiliser cette fenêtre pour mettre en exergue des répressions, les répressions que certains pays appliquent. Aujourd'hui, j'aimerais penser comme toi, mais la vérité, c'est quand Simon dit, mais il faudrait être très naïf pour penser que l'administration de Donald Trump va changer sa manière de penser juste pour une Coupe du Monde de foot. Je pense qu'on se met le doigt.
S'il n'y a pas des voix qui s'élèvent.
Ah oui, mais si personne ne parle, il se passera rien.
Si vous voulez être le maître du monde et être accepté en tant que tel par l'ensemble des citoyens du monde, ouvrez votre esprit.
C'est pas l'objectif de Trump.
Vous êtes un pays qui est en capacité de gérer.
Mais ils s'en foutent, hein.
Tout ce qu'il veut, c'est être plus riche avant qu'après.
C'est tout ce qui l'intéresse.
C'est pas vrai.
Il y a que Philippe qui a vraiment suivi le capitaine Nouillet.
Non, c'est pas vrai. Parce
et le prix Nobel de la paix. C'est les deux seules choses qui l'intéressent.
Philippe Modafin.
Non, mais j'ai. Le prix Nobel de la paix. Et il veut avoir cette reconnaissance jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il veut être reconnu comme l'homme de paix. Et ben, un homme de paix, ça se comporte pas comme ça.
Philippe,
moi, je suis. La naïveté du sport. Moi, je te dis un truc.
David, laisse-moi parler, j'ai pas dit un mot là.
Non, mais deux secondes.
Il est d'accord avec toi.
C'est vachement important. Les Jeux Olympiques de Moscou en 80, pour moi, ça a été le premier coup de butoir pour le démantèlement de l'URSS. J'en suis convaincu. Pourquoi? C'est une bouffée d'air libre qui rentre dans tous ces pays et qui font qu'au fur et à mesure du temps, il y a un vent qui vient éroder les systèmes complètement bloqués et les systèmes despotiques. Voilà.
Philippe, je vais être très court. Je vais être très court. Quand la politique prend le pas sur le sport, c'est dramatique. Mais moi, par exemple, capitaine de l'équipe de France 95, la politique et l'Afrique du Sud avaient pris le pas sur le sport. Donc hélas, ça existe.
Et voilà. Du coup, Philippe est d'accord avec capitaine Douillet.
Bien sûr, je suis d'accord avec toi, David. Tu le sais.
Regarde où en est l'Afrique du Sud aujourd'hui. L'Afrique du Sud est un pays qui s'est libéré.
Les compétitions, parfois, effectivement, servent à quelque chose. Donc, font bouger les lignes, en tout cas. On peut le dire comme ça. Bravo, capitaine. Vous avez défendu avec conviction votre brassard. Et effectivement, on va continuer à en parler, je pense, évidemment, de tout ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'il y a là-bas la Coupe du Monde et également les Jeux Olympiques. Dans quelques instants, on va remonter le temps. Les grandes gueules du sport remontent à la dernière victoire en France de la Coupe Davis. On revient dans quelques instants, tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Sarah Pitkowski, Simon Dutin, David Douillet, Philippe Saint-André qui allait remonter le temps avec nous pour parler de la Coupe Davis et nous raconter qu'il a été ramasseur de balles à Grenoble. Attends juste, tu nous racontes l'histoire quand même. T'as été ramasseur de balles en Coupe Davis?
Ouais, quand c'était la vraie Coupe Davis, tu vois. Ramasseur de balles, Yannick Noah, je crois que c'était Connors et McEnroe à l'époque.
Ah ouais, d'accord.
C'est incroyable. 91.
Putain, t'étais là, non, tac, 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 tac.
91?
91, la première finale de la.
Ah oui, mais non.
La première finale de la Coupe Davis française, on perd.
Non.
On perd à Grenoble.
Ah, 91, on bat Saint-Prince et Agassi.
Mais oui, c'est ce que j'allais dire.
Alors attends, c'est 80.
Ah, oui, mais oui.
Non, c'est 80. Ah, alors,
81, peut-être, mais pas 91.
Ah oui, attends, ah oui, j'étais gamin, c'est vrai, j'étais ramasseur de balles, j'avais 12 ans.
Donc, quel âge?
Parce que sinon, t'étais ramasseur de balles à 22 ans.
C'était à quelle année à Grenoble? Tu vas me retrouver ça.
Je vais te le dire, je regarde.
Mais c'est exceptionnel.
Parce que 91, on bat les États-Unis.
Bien sûr.
Bon, bah écoutez, on va se mettre à la question. Channels Television Breaking News. Voilà. Breaking news dans les grandes gueules du sport. Le championnat du monde de Formule 1 est en train de basculer puisque Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas cette nuit et les deux McLaren, Norris avait terminé deuxième, étaient sous la menace d'une disqualification. Jean-Luc Roy nous rejoint pour avoir la décision. Quelle est la décision, Jean-Luc Roy?
Eh bien, ça y est, mon Georges, le rasoir est tombé, c'est-à-dire que c'est acté. On a remesuré en présence des trois délégués de chez McLaren. Et pour être précis, la planche, elle fait 8,88 mm à l'avant et 8,93, ce qui est donc évidemment inférieur aux 9 mm que j'évoquais tout à l'heure. J'ai même l'instrument de mesure, c'est un Mitu Toyo qui a été acheté en mai 2025. Alors, j'ai pas le numéro de série de l'appareil.
Hein, non, mais l'info, c'est qu'ils sont disqualifiés, surtout Jean-Luc. Non,
ah ben, ils sont disqualifiés, donc ça relance complètement le débat, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Ça veut dire que Verstappen se retrouve à 24 points du leader, à égalité avec Piastri.
Alors qu'on comprenne bien, Jean-Luc, il y a possibilité de faire appel encore pour les McLaren?
Oui, possibilité de faire appel, absolument. Mais là, je crois que l'appel ne sera pas recevable. Je me répète, ça a été mesuré en présence des trois représentants de chez McLaren.
Ah oui, donc, ils ont mis du temps à
les faits ne sont pas contestables.
Pour mesurer quand même, parce que...
Ah ouais. Ah ben, tu sais, il est tard à Las Vegas, ouais. Hein, donc...
Il savait plus où il avait rangé.
Donc, information déterminante, les McLaren sont disqualifiés, il y a encore possibilité de faire appel. Donc, Max Verstappen, il fait plus que coup double, puisqu'il a remporté le Grand Prix de Las Vegas, et il revient désormais à 24 points de Lando Norris, et à égalité désormais avec Oscar Piastri au championnat du monde des pilotes. David, d'abord ta réaction, t'as fait waouh, là c'est un coup de bambou énorme pour les McLaren, hein, très clairement. Il y a deux Grands Prix, hein. 58 points en lice.
Voilà, ça va être deux grands prix d'anthologie avec je crois que Jean-Luc, tu me contredis si je me trompe, mais il y a deux grands prix et une course sprint, c'est bien ça?
C'est ça, oui, une course sprint au Qatar, oui.
Et est-ce que tu peux nous dire aussi les avantages des voitures? Parce que je crois que les McLaren sont un peu plus avantagés, notamment sur le grand prix au Qatar, c'est ça?
Ah, tu veux dire en fonction du profil?
Écoute, de la piste,
oui, tu sais, bah elles ont démontré là aussi. Normalement, elles étaient pas très à l'aise en principe sur ce tracé de Las Vegas. Elles le sont, hein. Donc je crois que cette année, elles sont à l'aise à peu près partout, très sincèrement. Ouais.
Elles sont à l'aise partout.
Mais au mental, c'est le mental.
Ah oui, non, mais le mental, oui.
Alors là, Norris, c'est le mental. Et celui qui a deux longueurs d'avance en termes de mental, bah je vous donne pas son nom, hein, c'est le Hollandais, évidemment, qui a vraiment une incidence mentale. Dans la vraie vie et sur la piste face à Norris. La preuve, quand ils se retrouvent en pôle l'un à côté de l'autre, bah on a vu ce qui s'est passé ce week-end. C'est Verstappen qui gagne le match. Voilà. Et si ça se passe bien dans les qualifs, s'il n'y a pas de casse, si c'est propre, à mon avis, il y a un gros avantage pour Max Verstappen.
Mais si Norris reste sur le podium les deux prochains Grands Prix, même si Verstappen gagne, il est champion du monde.
Jean-Luc,
au niveau des points.
Alors, ah ben oui, puisque oui, l'écart...
Il faut qu'il se rate quand même.
Mais... Voilà, l'écart de points, c'est... Attention, il y a quand même 58 points, parce qu'il y a Sprint Race, ça qui va perturber tout le monde. Et oui,
c'est ça qui va perturber,
Il n'y a pas 50, il y a 58 points. Il y a 2 fois 25 pour le vainqueur, plus les 8 points en cas de victoire dans la Sprint Race. Donc c'est ça qui brouille un tout petit peu les pistes.
58 points, mais s'il finit second, lui... Combien il récupère de points?
Alors, tu me parles du Grand Prix, là. Hein.
Oui,
en l'occurrence, l'écart, c'est de 7 points par course. 25 pour le vainqueur, 18 pour le deuxième. Et 15 pour le troisième.
Donc en fait, il faudrait qu'il termine au-delà de la troisième place au moins une fois, Norris, sur les deux grands prix, et que Verstappen encaisse tout, quoi.
Mais à qui
incombe la faute de cette disqualification? Parce qu'il va falloir digérer pour McLaren et pour les deux pilotes français cette disqualification.
Des deux pilotes de McLaren, oui.
J'ai dit quoi?
Les deux pilotes français, mais on aimerait bien être dans la course
automobile. Je rêve, pardon. Ouais. Les deux pilotes McLaren, c'est-à-dire que là, dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer? Ces réunions de crise avec les mécanos.
Il y a un mec qui va se faire virer.
Tu vois,
qu'est-ce qui va se passer?
Déjà, Sarah, ils vont décider s'ils font appel ou pas. D'accord. Premièrement. Mais moi je les vois mal faire appel, très sincèrement. Hein. Et je pense que c'est une mauvaise décision, parce que là, ce sont des faits. C'est incontestable. Alors maintenant, les fautifs, pour te répondre, ce qu'a invoqué McLaren, j'ai lu toute la déclaration là, hein, c'est que en fait, ils n'ont pas eu le temps, comme les autres évidemment, de régler la machine sur le sec. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, parce que les essais qualifs notamment se sont déroulés sur le mouillé, que les conditions étaient complètement différentes, que la charge aéro était totalement différente, que les pneus étaient naturellement différents, et que on peut très bien comprendre que les voitures se soient retrouvées plus basses qu'elles n'auraient dû l'être. Si ça avait été testé. Ils ont plaidé le fait qu'ils n'ont pas testé. Oui, mais les autres non plus.
Rapidement, petit tour de table. Juste Jean-Luc, avantage pour qui dans la lutte pour le titre mondial à deux grands prix de la fin de la saison désormais? Un mot et quelques arguments. Jean-Luc.
Écoute, Verstappen, parce que encore une fois, déjà, il aurait joué la carte jusqu'au bout, il les aurait enfoncés jusqu'au bout, et déjà, Piastri est détruit. On a bien compris qu'il finira même pas deuxième du championnat, vous verrez. Il sera troisième, parce que Verstappen va le passer. Maintenant, la question, c'est Norris. Or, le plus friable, je pense, psychologiquement, c'est Norris. Donc, pour moi, Verstappen là vient de récupérer, mais c'est lui le favori maintenant, mais j'ose le dire, avec 24 points de retard, c'est lui le favori.
Rapidement, juste en un mot, l'un ou l'autre, avantage pour qui pour le championnat du monde, David, Verstappen ou Norris?
Verstappen, parce qu'il a un truc de moins à régler que McLaren, et donc Norris et Piastri, parce que si Piastri se réveille et vient titiller Norris, il peut y avoir confrontation et accident. Il faut gérer deux types dans une équipe. Alors que chez Verstappen, chez Red Bull, il n'y a pas ce problème à régler. C'est un atout de plus pour qu'il puisse gagner.
Mais avantage Norris, il a 24 points d'avance. Il va finir deux fois second.
Nous merci, mon cher Philippe.
Arrêtez de nous dire des conneries.
Il a 26 points d'avance à deux grands
prix de la fin. Il nous envoie des fêtes depuis une heure. Tu m'as dit dans quel jour et on va voir qui c'est qui va gagner. Norris, sans problème.
Mais
tu préfères être à la place de celui qui a 24 points de retard ou d'avance à devant
chez Verstappen? Il y a un contexte. La dynamique positive, elle est du côté de Red Bull.
Si on retrouve le truc pour mesurer la hauteur de la voiture, après,
merci Jean-Luc Roy. Merci beaucoup d'avoir veillé avec nous depuis les États-Unis. Là, c'est du très lourd. La course au titre relancée après la disqualification des McLaren en Formule 1. Je vous invite absolument à écouter Paddock, le podcast RMC Formule 1 cette semaine, parce que là, désormais, c'était à Las Vegas, mais maintenant c'est devenu Dallas, la fin de saison de Formule 1. Merci Jean-Luc, et nous dans les grandes gueules du sport, on revient dans quelques instants pour la dernière heure, tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.